travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Monsieur le policier, vous étiez spécialiste du Palais Royal.
Et inspecteur qui dort, inspecteur des mœurs.
Et en cette qualité, vous connaissiez toutes les filles du Palais Royal.
Enfin, toutes, c'est beaucoup dire, il y en avait trop, n'est-ce pas? Enfin, celle qui vous intéresse, oui, je pense à Nicole Leguet, fille entretenue.
Eh bien, je vous remercie.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Bonjour. Nous savons que la police, ces temps-ci, sous l'effet des menaces terroristes, est mise à rude épreuve. L'état d'urgence, plusieurs fois prolongé, en lui donnant des pouvoirs plus larges, jette une lumière spécialement vive sur une tension qui est de toujours. Il s'agit des limites qu'en démocratie, l'État, qui est seul détenteur à l'intérieur des frontières de la violence légitime et qui la délègue aux forces de l'ordre, il s'agit des limites qu'il doit imposer à celle-ci au nom des droits de l'homme et de la protection de l'innocence. Mais sans que ce même État n'abdique jamais ce qui est l'un de ses devoirs essentiels et qui fonde jusqu'à sa raison d'être, je veux dire la protection inflexible de la sécurité des citoyens. À Paris, au XVIIIe siècle, il n'était pas question de démocratie, mais c'était déjà le temps des Lumières où mûrissait lentement ce qui sera la lumineuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À lire le bel ouvrage que Vincent Milliot vient avec la collaboration de Justine Berlière de consacrer à la police de Paris à cette époque, on ne peut qu'être sensible aux résonances que les débats d'alors à ce sujet, parmi l'opinion éclairée, peuvent trouver dans notre actualité. Vincent Milliot est professeur à l'université de Normandie, Caen. En historien et en citoyen, il a trouvé visiblement un vif intérêt qui n'est pas abstrait à voir comment, en ces temps reculés, mais le sont-ils vraiment, l'arbitraire policier a pu diminuer au profit du service attentif et parfois généreux des populations parisiennes.
Paris, la grande ville, des ombres vont la nuit, qui se faufilent le long des murs sans bruit. Là, sous la lanterne au feu rouge, faisant les 100 pas, des braves agents surveillent les bouges, dans le service on ne blague pas. D'autres sous leur capuchon, par deux dans la nuit s'en vont. Ce sont les nocturnes, les papillons de nuit, qui veillent pour qu'on ne fasse pas de bruit, quand le bourgeois roupit dans sa turne, si le vent taciturne sous les plis de leur manteau, c'est qu'ils risquent souvent leur peau, les nocturnes. Le long des sombres berges où de pâles falots semblent des cierges reflétés par les flots, des ombres s'en vont tête basse, si lasse de souffrir que vers l'eau profonde qui passe elles viennent en finir. Quand on est trop las de lutter, un soir, on n'a qu'à sauter. Ce sont les nocturnes, les papillons de nuit, recelant les bonheurs détruits, leurs cœurs sont de funèbres urnes. Ils vont taciturnes, là-bas vers les flots noirs, où sombrent les grands désespoirs. Les nocturnes.
Vincent Milliot, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous proposer une chanson de l'admirable Damia, une chanson de 1931, qui s'intitule « Les Nocturnes » et qui nous montre tout un aspect, tout un pan de la vie policière à cette époque-là. Et à vrai dire, cela concerne des siècles antérieurs très largement. Ce sont les papillons de nuit, cet aspect sombre de l'activité de la police, sombre et en même temps une police consolatrice, inquiétante, mystérieuse.
Oui, alors il y a tout un imaginaire de la grande ville. Paris, au XVIIIe siècle, c'est déjà la première ville du royaume. Et c'est une ville qui, à bien des égards, inquiète ou peut inquiéter les moralistes, les observateurs et l'administration et la police.
700 000 habitants.
À la veille de la Révolution, oui, beaucoup de migrants, parce que la ville ne peut croître que par des apports constants. Les écarts sociaux, il y a des gens très riches et des gens très pauvres à Paris. Il y a énormément d'activités artisanales, industrielles, commerciales. Donc c'est une sorte de monstre qu'il faut nourrir et qu'il faut aussi pacifier, contrôler, en un mot, policer. Alors la chanson, elle évoque finalement l'activité ordinaire sur le terrain de ces agents plutôt subalternes qui cherchent à contrôler les moments peut-être les plus inquiétants, dont la nuit. Alors la nuit, sous l'Ancien Régime, c'est théoriquement un moment qui est peu fréquenté, puisqu'il n'y a pas encore d'éclairage public très très développé. Les bourgeois doivent fermer leurs portes, fermer leurs accès aux cours, etc. Et lorsque la police patrouille, si jamais ces gestes ne sont pas accomplis, ça devient immédiatement un signe de suspicion.
La nuit policière a beaucoup changé jusqu'à nos jours, si je me permets cette formule.
Oui, mais en même temps, de manière étonnante, les pratiques sont durables, puisque les patrouilles sont pratiquées d'ancienne date. Alors les guets bourgeois, les milices bourgeoises au Moyen-Âge déjà, avaient pour mission de surveiller la nuit.
Les chevaliers du guet.
Voilà. Et au XVIIIe siècle, à Paris, il y a des patrouilles très régulières avec des inspecteurs, avec la garde de Paris, et puis des commissaires qui sont prêts à dresser procès-verbal si nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on surveille? Alors bien sûr, les cabarets, qui doivent fermer théoriquement à heure fixe, mais les cabaretiers respectent rarement la réglementation.
Ça c'est toujours vrai avec les boîtes de nuit.
Voilà, on surveille les bordels. Les garnis, lieux d'accueil de migrants, mais qui peuvent devenir aussi des lieux de prostitution. Et on a comme ça des rapports qui montrent cette activité nocturne de la garde, les descentes de police qui existent déjà.
Les bordels, en principe, c'est une activité disparue.
De nos jours. Oui, on a changé de régime. Sous l'Ancien Régime, l'attitude face à la prostitution est une attitude de prohibition. Mais en fait, dans l'incapacité de contrôler cette activité, la police la tolère. Et Paris a aussi la réputation d'être une capitale du vice, avec environ 30 000 prostituées à la veille de la Révolution.
Je ne disais pas que la prostitution avait disparu. Je rappelais que la loi Marthe-Richard, la Libération, avait supprimé les maisons dites de tolérance.
Voilà, alors les maisons de tolérance, elles existent sous l'Ancien Régime et elles sont sous le contrôle de la police très clairement.
Vous avez dans votre livre, à un moment donné, expliqué que on pouvait mettre en lumière, dans ce XVIIIe siècle parisien, quelque chose comme un laboratoire, en ce qui concerne la police, comme un laboratoire de nos débats contemporains. Je voudrais que vous nous expliquiez cela.
En fait, le XVIIIe siècle, c'est un moment où la police apparaît comme une activité qui de plus en plus se distingue de la justice, avant même la mise au net de la Révolution française. Et le problème qui est déjà posé, c'est celui du rapport entre l'activité de la police, et notamment de la police administrative, celle qui théoriquement prévient le crime, le délit avant qu'il ne survienne, et la justice. Donc ce qu'on voit arriver à Paris, c'est finalement le développement de cette police administrative, mais qui passe son temps en quelque sorte à s'échapper du cadre de la loi. Et donc la question qui est déjà posée, c'est jusqu'où peut aller la police ? Et c'est un débat qui va se cristalliser sur certains instruments de cette police, comme par exemple la lettre de cachet, l'enfermement administratif sans jugement, qui est un des abcès de fixation de tous ceux qui veulent réformer l'ancien régime judiciaire, parce qu'ils dénoncent ça comme du despotisme et de l'arbitraire insupportable.
On voit donc déjà dans ce XVIIIe siècle se dessiner cette opposition qui n'était pas claire auparavant entre l'ordre policier et l'ordre judiciaire, qui est fondamental quand on est soucieux de la liberté des individus.
Oui, alors le laboratoire parisien a ceci de particulier. Alors le premier élément de cette exception parisienne, c'est qu'il y a un contrôle très étroit du gouvernement, du Conseil du roi, sur les institutions policières. Donc ça fait une police qui est quasiment déjà étatisée à partir de la fin du XVIIe siècle, la création de la lieutenance de police.
C'est presque un ministre, le lieutenant de police, pas tout à fait, mais
c'est
il y en a presque.
C'est quasiment un ministre puisqu'il a un accès direct à la personne du roi, donc ça en fait un personnage assez exceptionnel de ce point de vue-là, parce qu'en même temps, c'est un subordonné du Parlement. Donc, c'est un magistrat qui est dans une position importante, mais de relative subordination par rapport à une cour souveraine comme le Parlement. Et en même temps, il a accès à la personne du roi, il a un contact direct avec le roi, et donc, il peut passer, en quelque sorte, par-dessus la tête du Parlement dans un certain nombre de cas.
Policiers et magistrats, ce serait inconcevable aujourd'hui.
Ah, les commissaires sont considérés quand même comme des magistrats, mais c'est vrai qu'il y a un mélange.
Officiers de police judiciaire,
voilà,
ce n'est pas la même
chose. Voilà, il y a un mélange des genres, bien évidemment. Et voilà, à Paris, on voit naître au XVIIIe siècle une police qui est de plus en plus distincte de la justice. Alors ceux qui portent justement, ceux qui inventent cette police, ce sont les inspecteurs de police. Et le Parlement cherche à maintenir un contrôle sur ces personnages. Donc on a déjà un petit peu cette course-poursuite, si vous me passez l'expression, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir policier qui prend de plus en plus d'importance et qui gagne en autonomie tout au long du siècle. Et c'est bien ce problème qui est posé à la veille de la Révolution. Maintenir le pouvoir policier dans une certaine subordination, puisque la justice doit offrir un certain nombre de garanties aux sujets qui deviennent des citoyens. C'est ce que demande Louis-Sébastien Mercier, c'est ce que demandent des grands juristes réformateurs comme Beccaria ou comme les Hommes des Lumières.
C'est ce que nous allons voir de plus près. Mais auparavant, je voudrais que nous évoquions les différents niveaux de cette police parisienne dans son exceptionnalité. Les commissaires, les inspecteurs, qu'on appelle souvent les moutons noirs, et puis cette petite armée d'espions et de mouchards dont on ne s'étonne pas que l'opinion publique la considère sans beaucoup de sympathie ou d'affection. Nous allons commencer par les commissaires, mais non sans citer Nicolas des Essarts, qui dans son dictionnaire de police use à leur égard de termes particulièrement flatteurs. Vous les reprenez dans votre livre, Vincent Milliot. « Je regarde la maison d'un commissaire comme une espèce de temple civil où l'on va chercher du secours contre le malheur. » Rien que cela. Alors voyons d'abord ce que sont ces commissaires. Et pour parler de leur formation, qui est complexe à l'époque, portons-nous au temps où on a pour la première fois fait une école des commissaires de police, qui est aujourd'hui encore en pleine activité. C'est un concours très difficile d'ailleurs, qui permet d'y accéder. Cette école a été fondée sous Vichy. Voici ce qu'en disent les actualités françaises qu'on montrait au cinéma.
Une autre école nouvelle, c'est l'École nationale de police, dont la tâche est de former les commissaires de police. Enseignement pratique, le maniement de la mitraillette. Outre les cours pratiques, les élèves commissaires s'entraînent à la culture physique adaptée à leur métier. Un enseignement général complète leur formation. Au laboratoire, usage du microscope en criminologie. Après une année d'études, les élèves sont reçus commissaires.
Vincent Milliot, quelle était cette population des commissaires? D'où venaient-ils? Comment vivaient-ils? On est à l'époque encore des charges qu'on achète.
Tout à fait. Donc ce sont des officiers de justice qui achètent leurs charges. Socialement, ils sont originaires en général de la bonne bourgeoisie parisienne et ça devient des notables de quartier. Hein, et la citation de Des Essarts évoque aussi cette légitimité qu'ils peuvent avoir auprès de la population parce que ce sont des intermédiaires. Ce sont des gens qui font des études de droit, hein, donc voilà, ils vont à l'université et ils achètent leurs charges et ils se forment plutôt sur le tas. Et donc, on a pu reconstituer, par exemple, le fait que les jeunes commissaires sont envoyés auprès de commissaires chevronnés dans certains quartiers pour se former. Là, il y a une hiérarchie entre les commissaires en fonction de leur ancienneté, en fonction de leurs compétences reconnues, en fonction aussi de leur proximité de vue avec les lieutenants généraux successifs.
Ils sont combien à peu près à Paris?
Ils sont 48. Voilà, ce qui est très peu. Ils sont répartis dans les 20 quartiers de police qui ont été créés en 1702. Et d'ailleurs, on se dit, voilà, 48 commissaires pour une population aussi importante. Manifestement, ça ne suffit pas, ou en tout cas, il doit se passer quelque chose pour que la ville, comme le dit le sous-titre de l'ouvrage, soit tenue. Alors, ces commissaires, certains sont des spécialistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des activités particulières. Voilà, ils vont se spécialiser dans la contrebande, se spécialiser dans les mœurs, se spécialiser dans la lutte contre la mendicité, dans la lutte contre le vol, etc. Et donc, ceux-là sont un peu des super commissaires. Ils prennent de plus en plus d'importance au fur et à mesure que le siècle avance, parce que le lieutenant général de police veut pouvoir compter sur ces commissaires très zélés. Et les autres commissaires sont plutôt donc des commissaires spécialistes qui vont gérer le tout venant dans les quartiers.
Donc, ouais. Si je comprends bien, certains ont une compétence territoriale et d'autres prennent en écharpe l'ensemble de la ville, de la capitale.
Voilà, alors tous ont une compétence territoriale, tous sont ancrés dans un quartier dans lequel ils doivent théoriquement obligatoirement résider, et cette obligation de résidence, elle est de mieux en mieux respectée, et certains ont effectivement des spécialités qui les conduisent à intervenir dans un espace plus large, à l'échelle de la métropole, et parfois plus largement encore, puisque par exemple le célèbre commissaire de la Mare, l'auteur du non moins célèbre traité de la police, qui est un best-seller européen, qui a des compétences en matière d'approvisionnement et de vivres, et il a pu intervenir à l'extérieur de Paris, justement, pour s'occuper de l'approvisionnement de la grande ville. Certains sont envoyés en mission à l'extérieur de Paris pour régler un certain nombre de problèmes.
Certains de nos auditeurs apprécient peut-être la série qui s'intitule Nicolas Le Floc à la télévision, produite par la compagnie des Phares et Balises de Jean Labib, d'après les romans de Jean-François Parot. Nicolas Le Floc est commissaire. Est-ce que cette destinée est conforme à une réalité? On le voit en relation compliquée toujours avec les lieutenants de police successifs, avec Sartine, avec Lenoir.
Alors, les romans de Jean-François Parot et la série télévisée qui s'y accroche, ce sont des productions qui sont pleines de saveurs. Il y a un ancrage dans les archives et dans la langue du XVIIIe siècle. Et je crois que c'est un des éléments du succès de cette série.
Je me méfie de la suite. Vous avez
la figure du commissaire Le Floc est en fait une sorte d'assemblage entre ce que pourrait être un commissaire et ce que pourrait être un inspecteur. Parce qu'en fait, le commissaire Le Floc, c'est lui qui mène l'enquête, hein, l'enquête judiciaire, il collecte les indices, etc., etc. Et ça, c'est plutôt un travail que font les inspecteurs. Le commissaire, lui, reste plutôt du côté des activités judiciaires. C'est lui qui dresse procès-verbal et c'est lui qui donne une forme légale à l'activité des inspecteurs. Les commissaires, donc comme ce sont des magistrats, vont gagner de l'argent à travers l'exercice de leur fonction de justice civile. Donc voilà, ils posent des scellés après décès, ils réalisent comme ça un certain nombre d'actes de justice civile qui leur apportent de l'argent. Ils font d'ailleurs une bourse commune et ensuite ils répartissent les fonds entre eux.
Alors que leurs actions policières ne rapportent guère d'argent.
Alors, ce qui est lié aussi à la justice, quand on entame une procédure, par exemple, déposer plainte, ça coûte de l'argent. Mais et donc voilà, celui qui le plaignant doit au commissaire une somme d'argent lorsqu'il va déposer plainte, sauf lorsque le commissaire décide gracieusement de faire cadeau de la plainte. Ils peuvent aussi gagner de l'argent justement grâce à l'exercice de leur spécialité. Mais là, c'est un système de gratification particulier, c'est-à-dire que la lieutenant général de police les rémunère pour leurs tâches spécialisées. Et le grand problème, c'est qu'effectivement, les tâches de police telles que nous les entendons, nous, c'est-à-dire les tâches de maintien de l'ordre, sont par définition des tâches gratuites. Et donc, tout au long de l'Ancien Régime, un des grands problèmes qui est posé à l'institution, c'est comment payer les policiers pour leurs tâches policières qui prennent de plus en plus d'importance à côté de leur fonction de justice. Si on paye mal les policiers, le risque qu'on prend, c'est celui de la corruption.
Enfin, heureusement, on a inventé depuis le système des traitements, un paiement direct par l'État, ce qui n'a pas empêché un certain nombre de dérives, mais qui reste, semble-t-il, très minoritaire.
Voilà. Alors, cette question de la corruption policière, elle est en particulier posée par des gens qui sont des auxiliaires des commissaires, qui apparaissent au début du XVIIIe siècle, avec le deuxième lieutenant de police, le lieutenant de police d'Argenson, celui qui vient après la Rénie. C'est le problème des inspecteurs. Parce que ce corps des inspecteurs, au début, il n'est pas financé.
Deuxième catégorie.
Voilà, c'est le deuxième groupe de policiers de cette police du Châtelet.
Les moutons noirs, dit-on souvent.
Alors oui, les moutons noirs, parce qu'ils ont une légende noire, parce que dès leur origine, comme ils sont mal payés, en quelque sorte, et comme ils s'occupent des parties les plus délicates de la police, parce que ce sont eux qui vont s'occuper des milieux délinquants, qui vont s'occuper des prostituées, etc. Ils sont en contact avec des activités qui les poussent assez vite, s'ils ne sont pas payés, à mordre, comme le dit un de mes collègues, dans le pain du vice.
Ripoux et bavure, ils mordent dans le pain du vice. Oui.
C'est-à-dire que lorsqu'on s'occupe de la prostitution et lorsqu'on est muni, parce que c'est leur arme de prédilection, les ordres du roi, voilà, on donne aux inspecteurs des ordres du roi et ils peuvent enfermer sans jugement les personnes qui sont considérées comme dangereuses et suspectes. Donc il est très facile, quand on a cet instrument-là, de faire en quelque sorte du chantage. De dire, voilà, si vous ne me versez pas telle somme, vous finissez à la Bastille ou dans un cul de basse-fosse. C'est un peu ce qui s'est passé au début du XVIIIe siècle, et donc ce corps des inspecteurs, au moment de la régence de Philippe d'Orléans, a été mis en procès parce que les bourgeois de Paris, c'était certains groupes professionnels, notamment les cabaretiers, les aubergistes, etc., s'étaient plaints des exactions de ces nouveaux policiers. Et donc ils sont vraiment en rupture avec les commissaires, parce que les commissaires, eux, font une police qui est publique, et on peut faire appel de leurs décisions devant les tribunaux royaux. Ça n'est pas du tout le cas avec les inspecteurs, c'est vraiment une nouvelle police, une vraie police qui n'est pas liée directement à la justice. C'est une police administrative, une police préventive, une police de maintien de l'ordre, mais qui pose un problème, c'est qu'il est cette police-là est en dehors des cadres du droit dès le début du XVIIIe siècle. Et alors, comment, en même temps, l'institution policière, la lieutenant général de police, elle est persuadée de l'intérêt de cet instrument, mais elle ne peut pas non plus méconnaître les réactions hostiles de la population. Donc, il a fallu réagir, et on a réagi de deux manières. La première façon de faire, ça a été de créer un corps d'inspecteurs. Ce sont des officiers qui achètent leurs charges, donc, et qui sont donc, pour cette raison-là, placés sous le contrôle, par exemple, du Parlement.
Troisième catégorie, les espions et les mouchards. L'espionnage ou le triomphe de la police administrative?
Oui. Alors, combien sont-ils? Alors là, c'est une grande question. On peut quasiment pas répondre. Sous Berryer, au milieu du XVIIIe siècle, on nous dit 3000 espions. Et puis, le noir, qui lui se veut plus vertueux lorsqu'il se justifie sous la Révolution, dit que lui a ramené ses effectifs à 1 000 000. En fait, c'est difficile parce que, en fait, qu'est-ce qu'un espion?
Voilà. Il y a des observateurs que l'on paye, il y a les espions sans le savoir qui racontent un peu le personnage du type du neveu Drameau de Diderot. Et puis, il y a des mouches qui sont vraiment des indiques.
Voilà, alors il y a ceux qui sont effectivement payés. Alors, ceux qui sont un peu les chefs d'orchestre de l'espionnage, c'est surtout les inspecteurs. Ils ont donc des équipes de sous-inspecteurs, de mouches, d'informateurs qu'ils payent, qu'ils rétribuent. Ils vont les recruter un peu dans tous les milieux. Les domestiques de grandes maisons qui rentrent dans l'intimité des ambassadeurs, des nobles, etc. Mais les espions, c'est aussi les mouches qui traînent dans les rues, sur les places publiques, qui sont dans les cafés, dans les cabarets, et qui écoutent et qui rapportent un certain nombre d'éléments qui portent sur l'état de l'opinion publique, sur la circulation des mauvais livres, etc., etc.
Donc, sur les ragots, sur les rumeurs.
Voilà. Mais il y a aussi des gens qui travaillent à la police qui sont insérés dans le monde des métiers. Alors il y a des métiers à risque, par exemple tous les métiers de la revente. Les revendeuses de vieux habits ou les revendeurs, les chiffonniers, les revendeurs d'objets.
Les arlequins, c'est-à-dire les repas dont les restes des repas des riches que l'on revend par morceaux.
Alors ce qu'on appelle le regras sous l'ancien régime, ça c'est pas tellement suspect ou c'est pas tellement dangereux. Le problème de la revente des objets et des vêtements, c'est le risque du recel. Et donc, contrôler ces métiers-là, c'est contrôler éventuellement des filières clandestines en lien avec le vol. Mais ce qui veut dire que il y a des gens qui collaborent, alors, avec la police sans avoir véritablement le statut d'espion. Ce qui a par exemple été étudié dans le quartier du Louvre, on n'est pas très loin des Halles et du quartier de la Friperie. Donc là, il y a de nombreuses revendeuses de vieux habits. Ces revendeuses de vieux habits, elles sont connues par la police, elles sont enregistrées par la police. Et elle dénonce toutes les revendeuses clandestines qui sont justement suspectes de travailler avec des voleurs et de faire du recel. Donc là, les revendeuses, ce sont des marchandes qui ont pignon sur rue et qui travaillent avec la police. De même que travaillent avec la police, les mères maquerelles, les tenancières de bordel, qui disent qui vient, qui fréquente, etc. Les patrons de cercles de jeux, les patrons de clubs, ou de cercles de sociabilité, comme ils s'en développent de plus en plus à la fin du XVIIIe siècle. Les propriétaires, ceux qui tiennent garni et qui donnent à loger à des voyageurs ou à des migrants, doivent aussi collaborer régulièrement avec la police. Ils tiennent d'ailleurs des registres, ce qui a disparu en France, mais qui existe encore dans un certain nombre de pays d'Europe. Il y a des registres d'hôteliers. Bon, ben voilà, ce sont des gens qui, très officiellement, travaille avec la police. Et donc la police, en fait, et c'est comme ça qu'elle tient Paris, parce que quand on compte ses effectifs, on disait tout à l'heure 48 commissaires. Il y a une vingtaine d'inspecteurs. Après, on va rajouter, 3000 espions pour faire bon poids. Rajoutons les forces militaires, la garde de Paris, les mousquetaires du roi, la maison militaire du roi. Voilà. Il y a quelques milliers de militaires qui peuvent intervenir lorsque l'ordre public dégénère, lorsqu'il y a des émeutes. Et pour tenir une ville de 500, 600, 700 000 habitants,
n'est pas beaucoup.
C'est très peu. Et donc ça ne peut fonctionner que parce qu'il y a des formes de collaboration diverses avec certains groupes de population. Les maîtres de corporation, ceux qui tiennent ces cercles que j'évoquais tout à l'heure, et puis un certain nombre de métiers et d'acteurs qui ont intérêt à collaborer avec la police, qui sont un peu tenus de le faire, sans quoi la police leur tombe dessus.
Sur la diversité des tâches de la police, à quoi nous allons maintenant arriver, Vincent Milliot, on peut relever ce que, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, un auteur anonyme évoque de la sorte, les soins de la police peuvent se rapporter à 11 objets principaux, la religion, la discipline des mœurs, la santé, les vivres, la sûreté et la tranquillité publique, la voirie, les sciences et les arts libéraux, le commerce, les manufactures et les arts mécaniques, les serviteurs domestiques, les manouvriers et les pauvres. Voilà qui fait beaucoup. Mais commençons par la politique de prévention, en particulier la prévention des émeutes. Je vais vous faire entendre à propos de grand épisode de Turgot qui a essayé d'introduire le principe du libéralisme notamment des prix, qui était un grand ministre qui ensuite a échoué, mais qui a proposé une réforme en profondeur du système, notamment de l'alimentation des grandes villes, et en particulier de Paris. Je voudrais vous faire écouter ce qu'en dit Edgar Faure, qui a écrit une biographie de Turgot, et qui en parle dans une conférence, les grandes conférences, du 28 mars 1960. La guerre des farines, vue par Edgar Faure. Vous me direz après si cela vous paraît sonner juste.
Comme la récolte était mauvaise, le blé a monté, le pain a monté, et le public a été mécontent. Et comme le public était mécontent, il y a eu des émeutes, des séditions. De telles émeutes et de telles séditions, il y en avait d'ailleurs déjà eu, mais jamais à une telle envergure. Et alors il s'est produit le phénomène suivant, les émeutes ont remonté jusque dans la région parisienne, il y a eu une émeute à Versailles, il y en a eu une à Paris, On a pillé les boulangeries, on a pillé les meuniers, on a pillé les granges. On a arrêté un peu plus de 200 personnes et on a fait exécuter deux meneurs qui ont été pendus, un ouvrier en gaz et un perruquier. Dans toute cette circonstance qui a occupé les premiers jours de mai 1776, Turgot a montré, si je puis dire, une poigne extraordinaire. Il a pris la tête des opérations, Maurepas a disparu, les autres ministres ne s'en occupaient pas, Turgot a tout dirigé, allant la nuit à Versailles réveiller le roi pour lui faire tenir un lit de justice, faisant la navette entre Paris et Versailles, dessaisissant le Parlement qui commençait à faire de la démagogie comme on peut s'y attendre, faisant saisir la justice prévôtale, faisant condamner et exécuter ces quelques meneurs dont je vous ai parlé, tenant ferme à l'application de ses instructions. Et Louis XVI, d'ailleurs, stimulé par Turgot, s'est montré ferme et s'est montré dans son rôle de roi. À telle enseigne que le grand historien de l'analyse économique, M. Schumpeter, a dit « Je ne sais pas si Turgot aurait sauvé l'ancien régime comme ministre des Finances, mais peut-être l'aurait-il sauvé comme ministre de l'Intérieur. Car s'il avait été là au moment du 14 juillet 1789 et des émeutes d'octobre 89, et s'il avait montré le même caractère qu'il a montré en 1776, les choses auraient été différentes. »
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On prétend, Vincent Milliot, que une boutade d'Edgar Faure, il les appréciait beaucoup, avait été la suivante au moment du bicentenaire de la Révolution. Il y a deux hommes qui auraient pu empêcher la Révolution. Edgar Faure, au fond, ne l'aimait pas tellement. C'est Turgot, mais il était mort. Et moi, mais j'étais pas né. Est-ce que vous ratifiez cette analyse qu'Edgar Faure fait de l'épisode Turgot?
C'est un épisode qui est complexe et qui dit plusieurs choses. Bon, la première chose, il faut toujours s'en souvenir, la police sous l'Ancien Régime et avant la Révolution, c'est beaucoup plus large que ce que nous entendons, nous, par police. Vous évoquiez tout à l'heure les 11 matières de police. Et le synonyme qu'on donne habituellement au XVIIIe siècle pour police, c'est administration de la ville, sous tous ses aspects. Donc ça va depuis les mœurs, les politiques d'assistance, la voirie et l'approvisionnement. Et la mission la plus importante, celle qui justement est en cause autour de l'épisode de la guerre des farines et de la politique libérale de Turgot, c'est celle de l'approvisionnement, c'est celle des vivres.
Les grains et l'eau.
Alors, les grains plus encore que l'eau. Hein. En fait, il faut se souvenir que dans la conception traditionnelle de la monarchie, le roi est le père de ses sujets et c'est un père nourricier. Et le roi s'engage même par contrat, presque au moment du serment du sacre, il s'engage à respecter les privilèges de ses sujets et à assurer leur prospérité et à les nourrir.
Ce qui fait que lorsque, en octobre 1789, les femmes de Paris viennent à Versailles demander du pain au roi, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, on est dans la droite ligne de cette sorte de contrat implicite passé entre le souverain et la nation, c'est ce que vous nous dites.
Tout à fait. C'est cette image du père, du souverain nourricier. Alors comment est-ce que le roi nourrit sa population? En temps normal, voilà, les laboureurs labourent, moissonnent, le grain arrive sur les marchés. Et les interventions sont limitées, même si les marchands de grains ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a effectivement un certain nombre de règles dont la finalité, c'est d'assurer la régularité des approvisionnements, donc des approvisionnements qui doivent être réguliers, suffisamment abondants sur les marchés des villes, et notamment des plus grandes villes, parce que si l'émeute de la faim éclate dans une grande ville comme Paris, le risque politique et le risque social, il est extrême. Donc, il y a ce premier objectif et l'autre élément, c'est contrôler les prix en cas de déficit des récoltes pour éviter donc que le peuple ne puisse plus acheter son pain. Donc, il y a un contrôle du marché, il y a un contrôle des transactions, un contrôle des prix qui peut s'enclencher en période de crise. Cela peut déboucher sur des épisodes de réquisition, de vente à prix forcé, donc au détriment, si vous voulez, des intérêts des marchands et des producteurs. Alors, les libéraux, les physiocrates, qui pensent que la richesse du royaume est produite par l'agriculture, et Turgot est un disciple des physiocrates, expliquent qu'en fait, cette réglementation limite les capacités de production dans le royaume, et donc il faut déréguler le marché, il faut déréguler le commerce.
C'est la théorie de la main invisible.
Voilà, il va y avoir en fait, non, l'équilibre du marché va se faire naturellement entre l'offre et la demande, hein, et donc toutes les interventions de l'administration sont plutôt, pour eux, contre-productives. Le problème, c'est que ça suppose une évolution de la conception que l'on a de la police. Ça veut dire que la police, elle doit non plus intervenir en amont pour contrôler le marché et éviter l'émeute,
mais après
elle doit laisser le marché fonctionner. Et son rôle, c'est si jamais il y a émeute, elle doit intervenir, mais là sous une forme répressive, pour protéger les propriétés.
C'est pourquoi le lieutenant général de police Lenoir est extrêmement hostile à Turgot en disant « Ne me demandez pas de réprimer seulement, mon rôle est de prévenir ».
Tout à fait. Et là, il y a une véritable crise qui va au-delà d'ailleurs de Lenoir. Il y a une crise au sein des parlements, qui sont aussi responsables de ces questions d'approvisionnement. Il y a des magistrats qui sont pour le libéralisme et d'autres qui sont pour la réglementation. Et certains corps de police, par exemple la maréchaussée, qui intervient dans les villes qui sont dans le bassin parisien sur des marchés secondaires, sont parfois placés dans une situation qui est de ne pas obéir à la loi du roi et à la loi de Turgot. Ils réquisitionnent pour éviter l'émeute. Ils vendent à prix forcé pour éviter l'émeute et pour calmer les populations.
Je voudrais que nous en venions maintenant, Vincent Milliot, à un rôle plus notoire. C'est celui de la surveillance policière des cercles multiples de la sociabilité, des élites en particulier, et des acteurs. Je vais vous faire entendre une protestation de Gaston Defer, maire de Marseille, qui était de retour des États-Unis d'Amérique et qui est à l'époque candidat potentiel à la présidence de la République. On est en 1964. Vous savez, on parlait de Monsieur X. C'est le temps où on avait pensé qu'on pourrait présenter un candidat qui irait depuis les démocrates chrétiens jusqu'aux socialistes à l'exclusion des communistes. Finalement, ça n'a pas marché et c'est François Mitterrand qui a été candidat en rassemblant communistes et socialistes et ses propres fidèles. Gaston Defer explique comment il est surveillé, dit-il, par le gouvernement gaulliste en place. Écoutons-le.
J'ai expliqué que tous mes téléphones étaient écoutés, mes conversations téléphoniques enregistrées et transmises à certains membres du gouvernement. Je n'ai voulu faire aucune question de personne, je n'ai pas donné les noms des membres de ce gouvernement qui reçoivent mes communications téléphoniques, il serait facile de les donner si je voulais le faire. En ce qui concerne la surveillance de mon domicile, elle est exercée de façon très étroite et tous ceux qui viennent me voir sont notés par la police et signalés au gouvernement. Je considère que c'est un procédé absolument antidémocratique et qu'il est très triste qu'un gouvernement français emploie de pareils procédés quand un homme se présente comme candidat contre l'actuel président de la République.
Est-ce qu'il y a eu déjà des réactions au gouvernement au fait que vous étiez suivi?
Je l'ai dit publiquement, je n'ai pas écrit au gouvernement pour m'en plaindre, je ne suis pas un petit garçon, moi je ne me plains pas. Le gouvernement fait ce qui lui plaît, moi je réponds ce que j'ai à répondre. La seule réaction qu'il ne peut pas y avoir, c'est une contestation, parce que ce que je dis est vrai. Je l'avais déjà dit publiquement avant de partir de France. Et vous voyez, ce qui est assez curieux, c'est que je l'ai dit à Narbonne, je crois. Ça n'a pas eu un grand écho en France. Il semble qu'en France, on s'habitue peu à peu à ce genre de procédé. Quand je l'ai dit à l'étranger, et j'ai l'impression, d'après ce que vous me rapportez, puisque je n'ai pas encore vu les journaux, que ça a eu plus d'écho. C'est au gouvernement qu'il appartient de savoir s'il entend continuer à employer ce genre de procédé. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je ne dirais pas même que ça ne me gêne pas. Et j'ai l'impression que ça me servira dans l'esprit des Français, car les Français n'aiment pas ce genre de choses, et que le gouvernement y perdra puisqu'il y gagnera.
C'était donc Gaston Defer en 1964, Vincent Milliot. Là, nous sommes conduits très directement à un rôle durable de la police, c'est-à-dire s'informer. Pendant très longtemps, les renseignements généraux ont eu ce rôle. Ont-ils disparu dans notre France contemporaine? Ce n'est pas absolument avéré.
Alors, cette police politique, en fait, qu'évoque Gaston Defer, elle n'existe pas, bien sûr, sous cette forme, sous l'Ancien Régime. Souvenons-nous que sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de liberté d'association, il n'y a pas de liberté d'expression. La police, elle doit s'occuper de surveiller trois choses en priorité. Le respect de la personne du roi, le respect de la religion et le respect des mœurs. Ces trois domaines qui vont déterminer son action dans la surveillance de l'opinion, dans la surveillance des imprimés, de la parole publique, etc.
La loi de 1881, extraordinairement libérale pour la presse, continue à protéger le chef de l'État contre les attaques éventuelles et les bonnes mœurs, même si un ou deux parlementaire sourit à ce propos en disant « Les bonnes mœurs, ça change énormément d'une période à l'autre, donc je ne sais pas comment vous vous en débrouillerez à l'avenir. »
Mais en tout cas, le blasphème religieux, lui, a disparu, alors que c'est une matière de justice sous l'Ancien Régime, même si ça s'atténue au XVIIIe siècle.
Oui, la religion est exclu désormais, voilà. Notamment depuis 1880.
Voilà. Alors, en revanche, même s'il n'y a pas d'enregistrement téléphonique, etc., ce qui est notable dans cette police parisienne du XVIIIe siècle, et c'est même un élément de sa grande réputation à l'échelle de l'Europe entière, c'est son aspect bureaucratique, mais il faut entendre par là que cette police, alors c'est le travail de certains inspecteurs et de certains bureaucrates, de certains agents qui sont dans les bureaux du lieutenant général de police, certains commis, eh bien elle enregistre de plus en plus, elle tient des registres, elle fait des inventaires, elle fait des listes, elle fait des rapports et elle conserve la mémoire de tout ça. Alors une partie de ces sources ont malheureusement disparu puisque le grand dépôt des archives de la police c'était la Bastille et donc c'est parti en fumée au moment de la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789, et l'hôtel du lieutenant de police a également été pillé à ce moment-là, donc il y a beaucoup de documents qui ont été perdus. Mais on
pour
a...
l'historiographie, donc, le 14 c'est... juillet, c'est une date sombre pour elle seulement.
Plutôt.
Oui, c'est ça.
Pour nous. Mais de même que, voilà, pour l'état civil parisien, les incendies de la commune sont terribles, etc., etc.
Mais parlez-nous des fichiers à l'époque, parce que cela est très, très contemporain avec tous les débats actuels.
Mais voilà, alors il y a, d'une certaine façon, le rêve du fichier central existe déjà. Et cette police parisienne, elle est étonnante parce qu'elle a une capacité à croiser des informations, ce qui fait qu'il y a parfois des villes ou des responsables de police de villes de province qui écrivent pour avoir des informations sur la circulation de certaines personnes suspectes. Et parfois, les demandes d'informations viennent de l'étranger, puisqu'il y a aussi déjà des formes de collaboration judiciaire et policière
à l'échelle
de l'Europe. Et les fiches de la police parisienne sont très bien faites et elles visent donc non pas toute la population. Voilà, parce que là, on n'a pas les moyens administratifs de, même si c'est sans doute un rêve que certains ont caressé.
On n'est pas encore dans l'atmosphère, dans le climat du film fameux sur la RDA d'avant la chute du mur, la vie des autres.
Non, mais les populations qui sont considérées comme à risque sont assez étroitement surveillés. Donc il y a de très beaux fichiers qui ont été étudiés par Erika Marie Benabou sur les prostituées.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces fiches ?
On va retrouver l'identité, souvent les itinéraires. Les gens de lettres font aussi l'objet d'un fichage qui est assez méticuleux. Il y a un inspecteur qui est célèbre, qui est l'inspecteur d'Emery, qui met en fiche toute la République des lettres et donc dans ses aspects parisiens. Et là, la police connaît les maîtresses des uns et des autres, les travers, les goûts particuliers et aussi ce qu'ils écrivent, bien évidemment, qui ils fréquentent. Disons que voilà, ce qui est étonnant, c'est de voir l'attention toujours plus grande que cette police parisienne accorde à l'écrit, au papier,
à la vie privée,
aux formulaires aussi qui sont de plus en plus normalisés. Et ça s'intéresse effectivement à certaines personnes et ça peut aller jusqu'à la vie privée.
Ça a sûrement disparu.
Alors, pour aller dans un sens immédiatement répressif, mais en fait, ça devient presque, on pourrait, si on utilisait un gros mot, presque un instrument de chantage. C'est-à-dire que certaines fois, on dit « Attention, nous savons ça, donc ne faites pas ça parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Hein. » Ça sert un petit peu à ça. Mais ce qui est frappant, voilà, c'est effectivement ce filet de surveillance qui existe incontestablement et qui va contribuer à la légende noire de cette police, notamment à la veille de la Révolution et au début de la Révolution. La police se défend en disant la seule façon, en fait, de pouvoir moissonner les personnes dangereuses, les personnes indésirables, c'est d'avoir ce système-là qui permet, finalement, c'est la garantie d'une protection efficace des bons citoyens. D'une certaine façon, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne serez pas pris dans ce filet-là. Mais pour que le bourgeois de Paris soit convenablement protégé, il faut qu'on puissent suivre finement les délinquants, les voleurs, etc., etc., et les moissonner sans faiblesse.
On retrouve toujours cette opposition entre le souci de la protection des citoyens, enfin des sujets à l'époque, et la défense d'un minimum de liberté. Vous avez choisi deux textes fort intéressants en épigraphe pour votre livre, qui est à l'origine de notre conversation, « Tenir Paris au siècle des Lumières, l'admirable police ». Vous avez choisi deux textes qui me paraissent bien refléter cette opposition de toujours et encore actuelle entre souci de la sûreté, de la sécurité des habitants, des citoyens à l'époque des sujets, et d'autre part la défense des libertés individuelles. D'un côté, mémoire pour la réformation de la police de France, de Guilloté, 1750, dans un état où la police est bien entendue, on conçoit qu'il doit importer au magistrat de savoir quand il lui plaît, où Pierre ou Jacques couche, depuis quand, ce qu'il est, d'où il vient, ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu, s'il existe ou non dans la ville, et dans le cas qu'il y soit, où on pourra le trouver. Et en face, Louis-Sébastien Mercier, que vous avez déjà évoqué, dont vous allez probablement nous reparler, dans le Tableau de Paris, d'un admirable observateur de son temps, qui écrit « Quelquefois, les soldats du guet maltraitent sans sujet ceux qu'ils arrêtent, et ils leur mettent des menottes d'une manière cruelle. On doit réprimer sévèrement de pareils abus et empêcher que les gardiens de la sûreté publique n'attendent impitoyablement au moindre citoyen qui doit être respecté jusqu'à ce que les lois aient prononcé, car il peut être innocent avec toutes les apparences d'un homme coupable. » On ne peut pas mieux résumer cette opposition fondamentale qui est de toujours et qui en tout cas est d'aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, Guilloté, le texte est du milieu du XVIIIe siècle et il est l'auteur de ce qu'on pourrait qualifier de véritable utopie policière. Je parlais tout à l'heure d'un rêve policier de contrôle total. C'est un texte d'ailleurs qui a fasciné Michel Foucault. Et donc le projet de Guilloté, c'est un projet de mise en transparence de l'espace. Donc tout est quadrillé, les immeubles sont numérotés, les escaliers, les appartements. Et la police devrait pouvoir accomplir de nombreuses tâches, alors dans le domaine de la fiscalité, puisque ça servirait donc à connaître les revenus des uns et des autres, l'état civil, donc qui naît, qui meurt dans les appartements de l'escalier A au troisième étage, voilà.
C'est Orwell déjà, c'est Orwell.
D'une certaine façon, c'est ça, voilà. Et
1984.
C'est une utopie de transparence absolue, c'est déjà donc l'œil de la police qui règne partout et donc on a une société qui est totalement transparente sous le regard de l'administration policière. Guilloté a fait un mémoire qui est orné par des très beaux dessins de Saint-Aubin où on voit justement des fichiers, on a cette image voilà d'un fichier central, et c'est quelqu'un qui a collaboré à l'encyclopédie et qui souhaite alors qu'il est originaire, enfin c'est un officier de la maréchaussée au départ, hein, il souhaite s'intégrer dans la République des Lettres, et c'est sans doute un élément dans sa stratégie en quelque sorte d'ascension sociale et culturelle. Face à ce type de projet total, presque totalitaire, il y a effectivement
totalitaire,
la revendication, des droits. Il y a une logique, il y a une philosophie qui nous vient aussi de l'autre côté de la Manche, c'est l'habeas corpus anglais. Voilà. Et qui reste une référence très importante pour un certain nombre de réformateurs anglophiles, dont Mercier est. Alors Mercier, dans le Tableau de Paris, il y a plusieurs chapitres qui évoquent les policiers, l'action de la police, etc. Et en fait, l'image qui ressort de ça, c'est une image un peu paradoxale. En tant qu'homme des Lumières, il défend une logique qui serait celle donc de la protection des droits individuels, du respect de ce qu'on pourrait appeler un habeas corpus à la française. Il met en avant le fait que les pratiques de la police administrative devraient être sous contrôle du juge. Il devrait y avoir, certaines fois il le dit, une sorte de tribunal pour contrôler voilà, les enlèvements policiers, les arrestations, etc.
Là, c'est le regard qu'on attend que la presse aujourd'hui puisse avoir, même avant les téléphones portables qui permettent de filmer telle ou telle bavure. C'est ce qu'on attend de la presse, c'est ce qu'on attend éventuellement de l'inspection des polices. À l'époque, qui doit être chargé de ce regard et de ce blâme?
Alors, dans l'esprit de Mercier, c'est pas toujours très clair. Enfin, il y a les juges, voilà, et puis il y a ce tribunal qu'il évoque quelquefois, des citoyens. Mais comme ça n'est pas, c'est un observateur moral, ça n'est pas un constitutionnaliste, etc. Donc il ne rentre pas forcément dans ce type de détails. Mais sur le plan des principes, Il y a cette exigence, hein, et cette exigence, elle existe chez d'autres réformateurs, chez des réformateurs judiciaires, qui se posent la question donc du contrôle de ce qui apparaît comme un arbitraire de plus en plus despotique. Mais le paradoxe, je l'évoquais aussi, c'est qu'en même temps, Mercier admet qu'il peut y avoir une part d'ombre de la police. Plusieurs fois dans son texte, il dit, voilà, la sécurité du citoyen est à ce prix. Dans le chapitre sur les enlèvements de police, c'est-à-dire justement ces arrestations administratives, arbitraires, hors de tout cadre légal, ces arrestations, celles qui se font donc avec des lettres, des ordres du roi ou des lettres de cachet, alors il déplore l'existence de ce système-là pour ses abus, pour le risque de l'erreur judiciaire. Ensuite, une fois qu'on est enfermé, il n'y a pas de limite à l'enfermement, sauf le bon vouloir de la police et du lieutenant de police. Donc il déplore tout ça et en même temps, il admet que les mauvais sujets sont contrôlés, sont retirés de la vie sociale pour le bien du plus grand nombre grâce à ce système-là.
Sans poser vraiment la question de savoir qui décide au fond, lui comme d'autres est très préoccupé par la peur des pauvres, la peur de la cour des miracles, la peur de tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur des corporations, qui échappent au contrôle social de tout le réseau de ceux qui peuvent être identifiés.
Alors oui, quoique réformateur, soit que disciple de Rousseau, Mercier porte aussi un certain nombre de préjugés sociaux parce qu'il est issu de la bonne bourgeoisie parisienne et donc la populace c'est quelque chose qui l'inquiète pour son ignorance, pour sa brutalité, etc. Mais c'est quand même quelqu'un qui communie dans la philosophie des droits et de ce qu'on va appeler les droits de l'homme et donc même les pauvres ont des droits. Et ça, c'est par exemple une grande différence avec le lieutenant général de police Lenoir, son contemporain, donc le chef de la police dans les 10 premières années du règne de Louis XVI, parce que lui refuse, c'est un partisan de l'Ancien Régime, c'est pourtant un réformateur, c'est quand même un administrateur éclairé, mais lui refuse la philosophie des droits et il explique que finalement les abus de la police, lorsqu'ils frappent la populace, des gens qui sont des moins que rien, ça n'est pas si grave puisque l'essentiel c'est de protéger la population établie, les bons citoyens, mais les bons citoyens, ce peut être aussi des gens de milieux relativement populaires.
C'est pour ça que le malheureux Lenoir, pendant la Révolution française, qui a bouleversé sa vision du monde, écrira des mémoires très chagrins. Vous les avez d'ailleurs publiés, Vincent Milliot, vous-même, et qui montrent qu'il y a eu à cet égard, au moins dans l'ordre théorique, un basculement provisoire. Je voudrais que nous terminions notre conversation sur un mode plus gai. Il y a aussi une mise en cause de caractère ludique de la, comme toujours, il y a des titis parisiens, je pense en particulier à ce Ménétras, ce vitrier que Daniel Roche a étudié, qui a vraiment un esprit d'insubordination. Pour en faire écho et pour terminer de manière plus joyeuse peut-être que nous n'avons commencé, cette chanson « Les flics de Paris » de Suzanne Gabriello, c'était une chansonnière qui avait du talent, en 1965. C'est un pastiche des filles de mon pays d'Enrico Macias.
C'est bien connu, grâce à la beauté de ses filles et de ses avenues. On oublie pourtant un autre élément qui le rend coquet et qui fait l'effet. Car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe 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 aïe. Avec leur bâton blanc, leur sifflet, leur képi. Aïe 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 aïe. Costume bleu marine, très bien coupé, avec ceinturon et gants blancs pour les égayer. Les autos séduites s'arrêtent bien vite pour les admirer au passage clouté. Car ils sont bien jolis les flics de mon pays. Aïe 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 aïe. Avec leurs bâtons blancs, leurs sifflets, leur képi. Aïe 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 aïe. Il faut les voir dans le soleil, en tenue d'été, cachés dans une petite guérite pour les abriter. Leur veston tout blanc est si engageant qu'on leur demanderait un demi, s'il vous plaît, car ils sont bien jolis, les flics de mon pays. Aïe, 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 aïe.
Nous sommes en 1965, Vincent Milliot, et les flics, comme le dit la chanson, sont encore habillés de façon traditionnelle. On le voit dans toutes les bandes d'actualité. Il faudra attendre Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, pour qu'on les habille différemment et qu'ils renoncent à leur cap et à leur képi.
Et ben voilà, le prestige de l'uniforme qui fascine, qui fait adhérer à ce personnage qui doit inspirer à la fois du respect et puis le sentiment qu'il peut vous protéger.
Comment sont habillés vos policiers du XVIIIe siècle ?
Le commissaire, je le disais, il est du côté de la justice, il a une robe noire de magistrat. L'inspecteur, au départ, il n'a pas d'uniforme, même si progressivement la question se pose. Le fait d'avoir un uniforme, ça rend le personnage visible. C'est une manière aussi donc d'inspirer le respect. Et cette question en fait du sergent de ville en tenue, elle est plutôt réglée dans la première moitié du 19e siècle.
Respect ou crainte ou hostilité d'ailleurs.
Tout à fait, parce que ça désigne aussi éventuellement le personnage à la vindicte et voilà. Le compagnon puis maître vitrier Ménétra, dans sa jeunesse, n'est pas le dernier et il incarne bien ce côté un petit peu rebelle d'une partie de la population parisienne qui est prête à faire des niches aux policiers, qui est prête aussi à faire le coup de poing lorsqu'il y a une arrestation dans la rue. Donc la police essaye de mettre en place des dispositifs, donc d'aller vite, d'être discret, d'intervenir la nuit, etc. Mais elle cherche aussi à rendre la police aimable. Alors, pour rendre cette police aimable, il peut y avoir cette question de l'uniforme. Il y a aussi les services que la police rend à la population. La proximité, le fait d'habiter dans les quartiers, de rendre les services, etc. Tout ça, bien évidemment, ça joue.
Les vertus de la police de proximité, c'est encore une question qui a été beaucoup agitée ces derniers temps.
Tout à fait. Et voilà, les grands responsables de la police au siècle des Lumières ont déjà posé ces questions-là.
Et plusieurs autres, comme nous l'avons montré dans cette conversation, dont je vous sais gré, Vincent Milliot. Votre livre, écrit avec la collaboration de Justine Berlière, s'intitule « L'admirable police », vous mettez des guillemets, « Tenir Paris au siècle des Lumières ». C'est une édition Champ Vallon de 2016. J'ai aussi évoqué, chemin faisant, votre édition des Mémoires de Lenoir, qui a vécu de 1732 à 1807, qui a été lieutenant général de police de Paris, également une édition Champ Vallon en 2011. Il faut mentionner et saluer l'Histoire et Dictionnaire de la police chez Bouquin en 2005, on s'y réfère toujours avec profit. Il est dû à Michel Auboin, Arnaud Tessier et Jean Tullard. Et puis, puisque j'ai évoqué Justine Berlière, qui a travaillé avec vous, qui est une chartiste. Son livre, sa thèse s'appelle « Policer Paris au siècle des Lumières, les commissaires, les voilà, les commissaires du quartier du Louvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », publié par l'École des Chartes en 2012. Vous pourrez trouver naturellement une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, puisqu'il est beaucoup question du récit national dans les débats électoraux qui précèdent les grandes échéances que nous savons, eh bien nous parlerons d'Ernest Lavisse. Ernest Lavisse, l'auteur des fameux manuels, dont un excellent spécialiste que je recevrai, est Olivier Loube. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée avec le précieux concours de Guillaume Cotte et de Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Philippe Baudouin, avec Clément Daté à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac et Marthe Laurent Clotilde Fio. Dans quelques instants, je passerai le témoin à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.